Bonjour à toutes, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin et un privilège aussi d'étudier encore ensemble le livre de Jonas. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez chercher le chapitre 4. On arrive à la fin, au dénouement de l'histoire. Jonas, chapitre 4. Pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, Jonas a été envoyé par le Seigneur à Ninive et ne voulant pas aller à Ninive, il est parti à Tarsis, à l'opposé. Finalement, il s'est embarqué dans un bateau qui a subi la tempête et dans cette tempête, Jonas a été passé par-dessus bord, avalé par un grand poisson, puis après 3 jours, rejeté, vomi sur la terre. Et finalement, il est parti à Ninive. À Ninive, il a prêché une journée, 4 mots, 40 jours, Ninive détruite. Je ne sais pas combien de temps il a mis pour préparer son message, probablement un peu moins que moi. La prédication minimaliste en fait, de Jonas a produit un bouleversement maximum dans toute la ville, puisque toute la ville, du plus petit au plus grand, s'est repentie. Jonas connaît donc ce rêve de tout prédicateur. Une réponse immédiate, spirituelle, profonde de son auditoire à la parole prêchée. Et regardez, chapitre 4, on va faire la lecture. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. » Car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie ». Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter ?» À cause du ricin ? Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Prions. Seigneur, viens à notre aide pour qu'on saisisse ce texte, pour qu'on puisse l'appliquer à nos cœurs, à nos vies, et pour que ta parole produise dans nos cœurs un profond changement, pour qu'on puisse te servir et glorifier ton nom par Jésus-Christ. Amen. Il prêche. Repentance spectaculaire. La Bible dit, c'est Jésus qui le dit, hein, qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et Jonas, lui, il est irrité. La Bible du Semeur traduit « Jonas le prit mal, très mal, et se mit en colère ». Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de lui poser une question à Jonas. Et la question c'est « What ?» Qu'est-ce qui te prend ? Je vous propose de regarder ce matin la colère de Jonas tout d'abord. Au verset 2 et 3, il implore son Dieu et il répand son cœur en montrant toute sa colère. Je le savais, j'en étais sûr qu'en m'envoyant à Ninive, c'était pour faire grâce à ce peuple. Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Waouh ! Sacrée accusation contre Dieu. Et il va encore plus loin, il dit « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Ça, c'est une constante chez Jonas depuis que le Seigneur lui a fait connaître sa mission. Il veut mourir. « Je ne peux pas vivre si tu fais vivre les Ninivites. C'est eux ou c'est moi ?» Et Dieu dit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Dieu invite Jonas à interroger sa colère. Vous savez quoi, hein ? La colère, c'est notre réponse à tout ce qui menace quelque chose ou quelqu'un que nous aimons. Certaines colères, donc, peuvent être justes si l'objet de notre amour est juste. Si on agresse ma femme, si on agresse mes enfants, ou si on agresse le BTM, je vais être en colère. Reste à gérer correctement cette colère, pour qu'elle ne produise pas de nouvelles injustices, mais accomplisse la volonté de Dieu. Mais alors, si la colère révèle ce qui est menacé chez moi, qu'est-ce qui menace Jonas ? Qu'est-ce qui est menacé chez Jonas ? La première chose qui est menacée chez Jonas par la grâce accordée à Ninive, c'est sa compréhension de la justice de Dieu. Il sait que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Comment peux-tu pardonner à un tel peuple ? Si tu leur fais grâce, comment est-ce que tu peux demeurer juste ? Vous savez, la justice de notre pays est profondément malade. Bon courage à notre nouveau garde des Sceaux, qui est porté à son chevet. La lenteur des procédures administratives, l'inexécution des peines, parfois une justice à deux vitesses. Mais vous savez quoi ? Ça ne date pas d'hier, en fait. La Fontaine, au XVIIe siècle, disait dans les animaux malades de la peste, « Selon que vous serez... puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Ainsi, on peut raisonnablement ne pas s'attendre à ce que notre soif de justice soit satisfaite par les hommes. Mais de Dieu ! Mais Dieu ! La justice de Dieu ! S'il n'y a pas de justice divine, si le jugement pour le péché ne tombe pas, alors que vaut Dieu ? Comment Dieu peut-il faire grâce à Ninive ? Ce peuple de Ninive était violent, belliqueux. Il était réputé pour sa barbarie. Le même roi, qui avait recouvert un pilier avec la peau de ses ennemis, rapporte qu'il coupa aussi les bras et les mains, le nez et les oreilles, et il faisait des pyramides de têtes humaines. Et toi, tu pardonnes à ces monstres ? Parce qu'ils se sont revêtus de sacs et qu'ils ont jeté de la cendre au-dessus de leur tête ? Mais qui paie pour leurs crimes ? Et là, il y a une forme d'injustice aux yeux de Jonas. Aujourd'hui, on dirait « c'est trop facile ». Dieu peut pardonner à ces barbares qui se repentent et croient en lui parce qu'ils entrevoient déjà l'œuvre de son fils à la croix. Oui, d'une certaine manière, tant que Christ n'est pas mort à la croix, leur péché était impuni. Et c'est ce que l'apôtre Paul écrit en Romains chapitre 3, verset 25. Il appelle ce temps le temps de sa patience. Ainsi, Jésus est mort pour justifier Dieu qui avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Le fait que Dieu le Créateur, le seul juste, ait été crucifié représente à jamais la plus grande injustice qui soit. Mais Dieu s'est ainsi offert pour porter toutes nos offenses, afin que nous puissions être pardonnés. Si c'est trop facile pour nous, ça ne l'a pas été pour Dieu. La seconde chose qui est menacée chez Jonas par la grâce qui a été accordée à Ninive, c'est son monopole de la grâce. Jonas, comme représentant d'Israël, voulait que la grâce de Dieu soit pour lui, lui seul. Il fait partie du peuple élu, choisi. Il est un des prophètes de l'Éternel, alors la miséricorde de Dieu, sa bonté, est pour lui, pour son peuple. Mais si la grâce de Dieu est aussi pour les ennemis d'Israël, à quoi bon être juif ? La réaction de Jonas dévoile le dysfonctionnement de notre cœur. Voyez-vous, nous prétendons croire à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu envers ceux qui méritent d'être punis. On est capable de se l'appliquer à soi et de la refuser aux autres sous prétexte qu'ils ne la méritent pas. Ça n'a pas de sens. La Bible dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de pouvoir faire miséricorde à tous. Si vous n'êtes pas OK avec ça, alors, voyez comment vous allez dire ce verset. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, sauf vous, afin de faire miséricorde à tous les hommes, sauf vous. La colère de Jonas, c'est parce que Jonas y trouve insupportable d'être mis à la même enseigne que tous les autres pécheurs, que les Ninivites. Et la colère de Jonas révèle son égocentrisme, en fait. Voilà pourquoi Jonas est en colère. Il ne comprend pas Dieu et la grandeur de son amour et sa parfaite justice qui sont réconciliés en Jésus-Christ crucifié. Il part boudé à l'est de la ville pour voir ce qui arriverait. Je le soupçonne éventuellement de s'attendre à un renversement de situation. Vous savez, un feu qui descend du ciel quand même. Donc il s'installe pour voir ça. Est-ce qu'il y a des gens que vous jugez indignes de la grâce de Dieu ? Est-ce que vous priez pour le salut d'un plus grand nombre, d'un peuple, d'un pécheur qui vous que vous méprisez. Regardons l'amour de Dieu à présent. C'est là que Dieu choisit d'exercer une nouvelle fois sa bonté envers son prophète. Oui, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Au verset 6, Dieu fit croître un ricin pour lui faire de l'ombre et pour le délivrer de son irritation. Le ricin, c'est une plante qui grandit d'environ 30 cm par jour et qui peut atteindre une hauteur de 4 mètres. Ici, la croissance du ricin est plus rapide encore et révèle une intervention miraculeuse de Dieu. Ses feuilles sont larges et procurent une ombre bienfaitrice à notre homme en colère. Il est bien maintenant. Jonas éprouve une grande joie à cause de ce ricin. Comme moi, quand les branches de figuier de mon voisin, chargées de fruits, commencent à passer le mur, ça me réjouit. Dieu montre ainsi sa compassion envers Jonas, malgré son attitude. Dieu n'était pas tenu de faire pousser un ricin, Jonas reçoit ce qu'il ne mérite pas. Puis au verset 7 et 8, le lendemain, Dieu fait venir un ver, puis un vent très chaud qui dessèche complètement le ricin. Et si mon voisin décidait d'abattre son figuier, quelle serait ma réaction? Jonas est au bout de sa vie, lui. Il n'en peut plus. Il demande la mort une nouvelle fois. Et Dieu l'interroge à nouveau, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Et sa réponse est pathétique.
« Oui,
je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et encore, son souci est moins pour le ricin que pour son confort. C'est son propre intérêt que Jonas a en vue, toujours égocentré. Nos irritations, nos colères en disent long sur ce qui remplit nos cœurs, n'est-ce pas? Nous devrions interroger nos colères. Elles révèlent souvent nos idoles. Et nos idoles, c'est souvent nous-mêmes. Notre confort, nos projets, notre timing, nos envies. Et voici maintenant la leçon de Dieu, chapitre 4, versets 10 et 11. Je relis ces versets. Et l'Éternel dit... « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit, et moi je n'aurais pas pitié de Ninive la grande, ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » C'est comme si Dieu disait à Jonas, « Ah Jonas, enfin, 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 tu... exprime de la tristesse pour quelque chose qui a péri. Mais dommage que ce soit pour une plante et non pas pour les 120 000 âmes qui vivent à Ninive et qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Le verbe que Dieu emploie, le ricin qui a péri, il est utilisé à trois autres reprises dans le livre, mais toujours à propos des humains. Pour les marins, dans le chapitre 1, et puis pour les Ninivites, dans le chapitre 3. Il y a plein d'autres choses plus importantes qu'un ricin qui périt. Il y a des hommes qui périssent. L'expression que Dieu utilise, là, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, désigne l'ignorance morale et spirituelle des habitants de Ninive. Vous savez, une génération qui grandit sans repère, sans Dieu, ne distingue plus le bien du mal, le vrai du faux, parce qu'elle s'est affranchie de Dieu. Et l'ignorance de Dieu, si elle ne justifie pas leurs crimes, les explique en partie. Enlevez le Dieu créateur comme fondement de toute chose et vous ruinez l'identité humaine. Si Dieu n'est pas notre créateur, l'homme n'a pas vraiment de valeur, en fait. L'homme a sa valeur parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, par Dieu. Enlevez Dieu et vous ruinez la famille. Enlevez Dieu, vous ruinez la création. Enlevez Dieu et vous ruinez la justice, qui devient simplement un concept à géométrie variable. Vous savez, la notion de péché, le fait de rejeter Dieu, de rejeter sa justice, son amour, bah tout cela perd toute consistance puisqu'il n'y a pas de Dieu. Enlever Dieu, il n'y a pas non plus de jugement. Mais s'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas non plus de justice. Et s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas non plus d'espérance. Il y a des peuples qui, dans leur ignorance du Dieu de la Bible, adorent d'autres divinités, craignent d'autres esprits. Des peuples pour lesquels les jumeaux sont tués ou abandonnés parce qu'ils sont une malédiction. Ou les filles sont une malédiction, ce qui pousse à des pratiques telles que l'excision, l'esclavage sexuel et le meurtre. Il y a des peuples où les albinos sont assassinés pour que leurs restes entrent dans des compositions magiques et sont vendus par des sorciers à des prix exorbitants. Il y a des peuples, peut-être pas si loin de nous, où les animaux domestiques sont mieux traités que bon nombre d'humains. Des peuples qui travaillent pour pouvoir manger et qui mangent pour pouvoir travailler jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est pauvre. Il y a des foules qui vivent une vie de rêve sur Instagram et qui finissent par se suicider. Vous savez, Dieu a compassion d'un peuple qui l'a oublié. Dieu a compassion d'un peuple qui l'a évincé de sa vie. Si c'est votre cas, Dieu a compassion de vous. Parce que vous manquez le sens de la vie, parce que vous manquez la joie profonde de le connaître et l'assurance de son pardon, vous manquez l'espérance de vivre avec lui pour l'éternité. Oui, Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il change de conduite et qu'il vive. Vous avez remarqué, la compassion de Jonas pour la plante explique certainement la mention plutôt étrange à la fin du texte. Il dit, ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que ça vient faire, tous ces animaux-là en grand nombre? Je pense que la question de Dieu est ironique ici. C'est comme s'il dit à Jonas, Jonas, si tu ne permets pas à Dieu d'avoir compassion de Ninive pour les 120 000 hommes et femmes et enfants que Dieu a créés et dont il se soucie, ne permettras-tu pas à Dieu d'avoir compassion de Ninive pour tous les animaux? Toi qui es plein de compassion pour un ricin? Et le livre s'achève sur cette question laissée sans réponse, afin que les lecteurs puissent y répondre eux-mêmes. Et je vous propose de regarder enfin notre réponse. Vous voyez, ce livre, il termine avec cette question de Dieu, puis point. Les premiers lecteurs, ce sont les Juifs nationalistes, dont Jonas est le représentant. Le peuple d'Israël du temps de Jonas ne voit pas les nations qui l'entourent comme les bénéficiaires potentiels de la grâce de Dieu. L'objet du livre de Jonas, c'est qu'Israël retrouve sa vocation d'être une bénédiction pour les nations. Il faut mettre au crédit quand même que Jonas, c'est le premier missionnaire auprès des nations, en terre étrangère, même si c'est malgré lui. Hein. Et le livre se referme avec cette question de l'Éternel, « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive ?» pour provoquer une réponse de la nation d'Israël envers le monde sans Dieu. Malheureusement, 8 siècles plus tard, lorsque Jésus cite le récit de Jonas, c'est pour dire aux scribes et aux pharisiens de son temps qu'ils devraient se repentir de leur indifférence à l'égard des nations alentour. Ils sont encore dans le même travers. Les non-juifs sont toujours considérés comme des chiens à qui on ne parle pas, chez lesquels on ne met jamais les pieds. Et l'attitude de Jésus contraste tellement avec celle de son peuple et de Jonas. Jésus, lui, il accueille et offre le salut à une Samaritaine. La Samarie, ça se trouve entre la Galilée au nord et la Judée au sud. Et les Juifs qui devaient faire le voyage de Galilée jusqu'en Judée ou de Judée jusqu'en Galilée, ils préféraient faire un contour plutôt que de mettre les pieds en Samarie. Parce qu'après, il faut saler, il faut nettoyer les chaussures. Vous voyez un peu l'esprit. Mais Jésus, lui, il se rend volontairement en Samarie. Et il rencontre cette femme qui est même rejetée par son peuple. Et il lui parle et lui annonce le message de l'Évangile. Jésus accueille et répond à la prière d'une femme syrophénicienne, d'un centenier romain, l'occupant, mais aussi d'une femme adultère, d'un collecteur d'impôts qui était détesté par tous les autres, d'un pécheur notoire ou d'un lépreux samaritain. À la fin de son ministère terrestre, Jésus annonce à ses disciples, juste avant de monter au ciel, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le but de l'auteur du livre de Jonas est de combattre de la manière la plus énergique la tendance de son peuple à s'envisager, en raison de l'alliance divine, comme le seul objet de la miséricorde de Dieu. Et après s'être approprié le monopole de la grâce, il va juste abandonner le reste des hommes aux horaires du jugement. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, il y avait cet homme, William Carey, un jeune cordonnier passionné par des sciences naturelles, par les langues et par la parole de Dieu. Il est devenu instituteur de son village en même temps qu'il est pressenti pour devenir le pasteur de cette église baptiste de son village. C'est à cette époque qu'il réalise sa fameuse carte du monde et il développe un énorme fardeau pour les âmes perdues. Il lit dans le livre du révérend Andrew Fuller, intitulé « L'évangile digne d'une pleine acceptation », il trouve ces mots. « Si c'est le devoir de tous les hommes de croire quand l'évangile leur est présenté, cela doit être que c'est le devoir de tous ceux qui reçoivent l'évangile de faire tout pour le faire universellement connaître. » Et ça, ça scelle ses convictions sur le besoin et la responsabilité missionnaire de chaque chrétien. Et c'est dans ce contexte qu'en 1786, il a 25 ans, au cours d'une réunion de pasteurs, Carré soulève la question du devoir de tous les chrétiens de répandre l'évangile à travers le monde. Et l'un des pasteurs qui lui aurait rétorqué « Jeune homme, asseyez-vous. S'il plaît à Dieu de convertir les païens, il le fera sans votre aide et sans la mienne. » Mais cette réponse ne le satisfait pas. 3 ans plus tard, il publie un manifeste intitulé « Enquête sur le devoir qu'ont les chrétiens de se donner les moyens de convertir les païens ». Livre d'une 100 pages qui décrivait l'état de la population mondiale et le devoir des chrétiens d'évangéliser tous les peuples de la terre. Après des fondements doctrinaux, ce livre contient un rappel historique de l'activité missionnaire depuis l'Église primitive jusqu'à David Brenner, qui a vraiment été un missionnaire qui a impacté la vie de William Carey et puis de John Wesley. Et puis s'ensuit des statistiques sur l'implantation des religions à travers le monde et enfin un appel à la constitution d'une société missionnaire baptiste. Il est l'un des premiers missionnaires de cette organisation qui verra le jour. Et il est envoyé en Inde. Il est appelé le père des missions modernes parce qu'après lui, beaucoup se sont engagés dans la mission. William Carey, on dit qu'il a traduit la Bible pour un tiers de la population mondiale de son époque. Bon, il était en Inde, mais il a été aussi en Chine. Vous savez, chaque génération de chrétiens est confronté par le livre de Jonas. Confronté à répondre à l'appel de Dieu pour l'évangélisation du monde. Aujourd'hui, il reste encore tellement de peuples non atteints. Un peuple non atteint, c'est un peuple où parfois l'évangile n'est même pas traduit, la parole n'est pas traduite. Il n'y a pas d'église, ou tellement peu qu'il n'y a pas la capacité de former et d'implanter d'autres églises. Vous savez pourquoi il y a encore tellement de travail? J'ai listé quelques réponses. Peut-être il y en a d'autres. Je pense que d'abord l'annonce de l'évangile s'accompagne du renoncement à une vie confortable. Chacun de nous chérit son ricin. L'éloignement avec sa famille, son pays, un renoncement à des biens matériels, à une carrière, à une renommée. Ça nous retient. Les églises se trouvent toujours de bonnes raisons pour ne pas s'engager dans cette œuvre missionnaire, ou le moins possible. Vous savez, on est encore une petite église. On ne soutient pas complètement notre pasteur. On a un projet d'agrandissement. Bientôt, on le fera. Malheureusement, si on ne met pas ça dans l'ADN de nos églises, on ne le fera jamais. Nous connaissons une génération de Jonas qui ne veut pas répondre à l'appel de Dieu, qui ne prend pas le temps de considérer l'œuvre de Dieu. Peut-être une autre raison, c'est que on fait trop peu cette prière « Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson, puisque tu nous as appris cette prière. » Mais la raison principale est que nous comprenons si mal l'amour de Dieu pour ce monde, sa compassion pour ceux qui sont dans la détresse, sa volonté de faire grâce à ceux qui méritent d'être punis, sa patience pour ceux qui persistent dans le péché. Jonas n'avait pas connaissance de Christ et de la croix, comme nous l'avons, pour contempler l'amour de Dieu. Comment voyez-vous la ville de Toulouse? Il y a 1 million d'âmes dans l'agglomération toulousaine. 4 500 de ces âmes sont dans une église ce matin. Ça représente moins de la moitié d'un pour cent. Dieu dit en Ézéchiel 22:30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. » Jésus est celui qui s'est tenu devant Dieu en faveur du pays et du monde. Et nous pouvons encore, nous, aujourd'hui, annoncer son merveilleux salut et nous tenir, nous aussi, derrière lui, à la brèche, en faveur de notre pays, de notre ville. Je suis tellement reconnaissant pour cette 26e convention missionnaire que nous allons vivre ensemble, dans laquelle on va apprendre à aimer d'autres peuples, prier pour que sa grâce s'étende. Je suis tellement reconnaissant pour le BTM, et sa vision missionnaire qui est portée d'année en année, qui s'accroît. Je suis convaincu, absolument convaincu, que c'est une des raisons pour laquelle cette église grandit. Probablement il y a d'autres raisons, mais c'en est certainement une. Et je prie pour que, un jour on fête, si Dieu tarde, la 50e, avec autant de zèle, ou peut-être même davantage encore de zèle pour l'œuvre missionnaire. Mais j'aimerais terminer avec cette dernière pensée. Si Jonas est bien l'auteur du livre de Jonas, ce que la plupart des commentateurs reconnaissent, parce que le verset 1 qui dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai », c'est la manière que Osée, Joël, Michée, Sophonie, Zacharie et d'autres prophètes ont utilisé pour signer leur livre. De plus, qui pourrait décrire en détail une prière que Jonas a fait tout seul dans le ventre d'un grand poisson? Mais surtout, qui aurait pu mentionner un prophète de l'Éternel et décrire avec une telle force l'endurcissement de son cœur, l'insolence de sa désobéissance, son indifférence envers les nations, l'immaturité de son cœur, sinon le prophète lui-même. Et c'est pour cela que ce livre est satirique. On a l'impression que tout est exagéré, mais c'est parce que Jonas est en train de décrire son propre cœur, ses propres sentiments. Vous savez quoi? Maintenant, si Jonas est bien l'auteur de ce livre, C'est donc qu'il s'est repenti. Et il termine sans donner de réponse à l'interpellation divine, non pas parce qu'il n'a pas donné la sienne, il l'a donnée, mais pour que Israël réponde et pour que nous répondions à l'interpellation de Dieu. J'ai lu qu'on montre aujourd'hui à Mossoul en Irak, Mossoul c'est Ninive en fait, on trouve une mosquée du nom de Nabi Yunus, qui signifie « prophète Jonas ». Cette mosquée a été construite sur le site d'une église assyrienne qui renferme le tombeau du prophète Jonas. Ça signifie quoi ? Ça signifie que Jonas est mort à Ninive. Ce qui pourrait nous laisser penser que Jonas est resté ou est revenu à Ninive et a enseigné à ce peuple de Ninive le Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Jonas a finalement vu la glorieuse grâce de Dieu qui s'étend à tous ceux qui se repentent et croient en lui. Et c'est ce qui a changé son point de vue sur Ninive et sa mission. Et c'est aussi ce qui peut changer notre point de vue. Gloire à Dieu pour sa grâce merveilleuse. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier vraiment pour ce livre de Jonas. Merci parce que à la fois Jonas nous est antipathique et à la fois tellement sympathique parce qu'on se reconnaît dans ce personnage. On te remercie Seigneur de ce que c'est une satire de son propre cœur, de son propre peuple. Et Seigneur, c'est probablement une satire de notre propre cœur et de notre propre peuple ou de nos propres églises, Seigneur, que d'avoir un cœur difficile pour la mission. Et Seigneur, nous prions pour que tu répandes ta bénédiction encore sur nos cœurs à chacun. À la veille de cette convention missionnaire, qu'on puisse être passionné par le désir de faire connaître ta grâce. Seigneur, apprends-nous à nous en saisir davantage, à la voir, à te voir plus, de voir davantage et avec plus de précision la grandeur de ton amour, de ta bonté, de ce qu'il n'y a aucun peuple que tu as rejeté complètement, que tu veux faire grâce encore aux pécheurs. Je prie pour que si aujourd'hui, au milieu de nous, il y a encore des gens qui ne te connaissent pas encore, je prie pour qu'ils viennent à toi, qu'ils se déclarent pour toi, qu'ils s'engagent dans une vie de croyants, de disciples qui forment à leur tour de nouveaux disciples. Seigneur, viens-nous en aide et bénis encore notre Église pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.